Hey, bonjour, bonsoir, vous êtes sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit en compagnie de Nicolas et...
Farouko.
Oh my god, il avait déjà allumé son micro.
Yeah!
Cette semaine, à Voix de fait, comme vous pouvez vous en douter avec le thème qu'on vous a mis, on va revenir sur la question de la Tunisie. En fait, il y avait manifestation à Québec samedi dernier, on était là, on en a ramené un reportage. La situation continue d'évoluer très rapidement en Tunisie. C'est une révolution populaire, c'est de toute beauté.
Ben on non, risque de vous en reparler. C'est juste un changement démocratique.
Une transition constitutionnelle, comme dirait l'État français.
Et voilà.
Et voilà. Mais on va pas juste parler de ça, évidemment. On va avoir une entrevue avec Vicky Brazo, la directrice adjointe du regroupement des organismes communautaires de la région de Québec, parce que il y a quelque chose d'assez, de pas banal qui se passe avec les organismes communautaires en ce moment. Ceux, en fait, qui sont... en santé et services sociaux, il y a des atteintes graves à leur autonomie de la part de l'État. Et puis là, ils ont décidé que non.
Ça
alors, il y a un grand mouvement. Ils refusent de signer le protocole d'entente qui est lié à leur subvention triennale. Donc, c'est quand même pas rien pour des organismes communautaires.
Mieux pas avoir d'argent.
Ben, en fait, ils espèrent qu'ils vont être assez nombreux à pas le signer. Que ça va forcer l'État à revenir, à reculer finalement sur le protocole. Bref, on va faire un entretien avec Vicky Brazo là-dessus. Il y a Jenny aussi qui va nous parler de manifestations à Tel Aviv pour dénoncer une campagne menée par l'extrême droite contre des associations de gauche. Et la Grèce qui s'apprête à commencer la construction d'un mur afin d'empêcher les immigrants illégaux en provenance de Turquie d'entrer dans ce pays. Donc, évidemment. On va voir aussi Samuel Lamar, je crois. Je me souviens plus de son nom, c'est con, hein? Samuel Lamar, étudiant en sociologie, qui va venir nous parler d'actions qui ont eu lieu aux quatre coins du Québec pour dénoncer les prises de position des recteurs en faveur des hausses de frais de scolarité.
Ben.
Tout ça dans l'heure qui suit, à voix de fait. Alors, on s'en va en musique avec Webster qui nous parle des cols blancs. Hey, hey.
La crise économique, right? Y'a pas de bonus pour le budget. Trader, yo. Le quartier, déjà 2010. L'ambiance est si froide qu'on se donne la main avec une mitaine. Le monde est devenu fade à un tel point que je me dis d'aide. Presque à bout de souffle comme s'il souffrait d'emphysème. Il faut qu'on se moutine et que l'on tue le capitaine. Il se trouve que le futur est peint de gris plus en plus terne. S'agit de se rendre utile, de prendre soin de ceux qui t'aiment. Il n'y a rien de plus futile que croire encore dans ce système. Yep, 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 ça y est, on y est encore au step et on y est. Ça sert à rien de le nier, ce siècle a un goût de cendrier. Check, on est enlisé, économie enrayée. Quelque chose est vicié, comme un lit sans oreiller. Délit d'initié entre deux gorges et des Nessies. Transfert de 10 milliards en Suisse et de 30 missiles en Russie. Des fusils Uzi d'Israël, des barils de BPCL. Easy money des cartels, lavé dans les îles les Seychelles. Les banquiers nous écartègent, casse qu'on soit tous desséchés. Font une cote sur la cagesse, tu fais le temps pour les sachets. Chaque pays de la planète sont autant de cases et les chiquiers. Tu veux parler, guns et bolettes, ils n'ont qu'à sortir le chiquier. Pour eux les rumeurs de la guerre, comme un son d'Alichekis. Mélodie de sa lorraine, y'a que la paix pour les choquer. Tu sais, chez beaucoup de gens, l'avarice est un défaut caché. Prêt à tout pour faire du bread et j'te parle pas de focaccia. Regarde, c'est déjà 2011. L'économie va mal quand je le constate, mes sourcils froncent. Le vibe est peu banal et ça l'est depuis l'âge de bronze. S'il te reste un peu d'espoir, j'prendrais bien une petite once. Il faut qu'on s'organise et que l'on s'occupe de ces mondes. Piller les coffres des entreprises, le bénéfice serait immense. Tu vois la foule de fer sur Wall Street et ferme un bas. Distribuer les ressources pour se sortir de cette impasse.
agissent comme des malfamés. Banque mondiale, FMI, trop de gens sont affamés. Car ils entretiennent les famines, ils font les profits gigantesques grâce aux crises artificielles. La prochaine fois que tu check les news, demande-toi qui tire les ficelles. Ingérence économique dans le social et politique. Ils font des remontrances à tous, mais n'en suivent même pas l'éthique. Nouvelle tactique coloniale, c'est la dette des pays pauvres. Impérialisme sauvage, tu veux un prince ou payer pour. Vois les quais de Sri Lanka, enchaînés dans un sweatshop. Représentant syndicat, remercié par un headshot. Tous les ouvriers du monde qui laborent pour des cacahuètes. Aujourd'hui les droits de l'homme ont une odeur de cacahuètes. Ceux qui fouillent les dépotoirs se trouvaient un peu de food. Comme ces petits enfants tailles qui se donnent aux pédophiles. Pas une vie mais la survie, j'ai mon esprit d'abasourdi. L'aristocratie s'assouvit tandis que le peuple crie. En sortie de garde, c'est déjà 2016. Plus les choses avancent et moins la corruption ne cesse. Je ne sais pas ce que t'en penses mais 10% deviennent obèses. Vois les moutons qui consentent, manipulés comme de la terre glaise. Il faut que l'on s'embrase et qu'on jette les laits dans la braise. Définition du feu sauvage se propage comme de l'air presse. Est-ce que t'entends le son des libertés que l'on compresse? Il faut se libérer des liens avec les plaies de Damoclès.
Yo, ils nous pointent du doigt parce qu'on est habillé pop. Tout ce que je disais parce que c'est nous les criminels. Mais tout le monde sait que les vrais criminels portent des collets blancs avec un complet, une cravate assortie. Tu vois ce que je veux? C'est là que le vrai money se passe. C'est là dans les hauts du parc que le vrai money se brasse. No, so yo stand up. Hip hop Québec stand up. On reste fort, juste y'a plus qu'à stand up, no.
Oui, spécial dédicace Jean Charest et toute sa clique.
Samedi après-midi, rue Saint-Jean. J'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de gens au Québec qui étaient capables de chanter l'hymne national tunisien. Faut dire qu'avec ce qui se passe depuis quelques jours, c'est de circonstance. Donc, le 15 janvier, c'était journée internationale de manifestation, de solidarité avec la lutte du peuple tunisien. Et il y avait une manifestation à Québec. Votre fête est longue, vous en a ramené un petit reportage. On écoute Hakim Merdassi, un des animateurs de la manifestation.
La Tunisie fut le premier pays arabe qui abolit l'esclavagisme en 1848. La Tunisie fut le premier pays arabe qui a une constitution en 1861. La Tunisie fut le premier pays arabe qui a aboli le polygamie en 1956. La Tunisie fut le premier pays arabe qui a proposé une solution au problème israélo-palestinien. Et maintenant, aujourd'hui, la Tunisie est le premier pays arabe qui dit « Dégage à son dictateur !»
On écoute Tayem Moala, journaliste à Québec et opposant de longue date.
Bienvenue tout le monde. Bienvenue à la toute première révolution du 21e siècle. Une révolution qui a été faite par le peuple. Elle n'a pas été imposée par l'extérieur. Le peuple tunisien n'a attendu personne pour le libérer. Il n'a pas attendu de chars américains. Il n'aura pas Hamid Karzai qui va venir sur des chars américains pour amener la démocratie. Le peuple tunisien a compris que la liberté ne se donnait pas, la liberté se prend. Les yeux du monde entier sont rivés aujourd'hui sur un petit pays de 165 000 km² de 10 millions d'habitants qui a su faire sa révolution. Nous avons une responsabilité énorme envers le monde entier et particulièrement envers le monde arabo-musulman. Aujourd'hui, les yeux de nos frères algériens, égyptiens, j'ai vu une pancarte ici, sont rivés sur nous pour qu'on protège cette révolution démocratique. Ces dernières années, vous nous avez peut-être battus au soccer, mais là, on est en train probablement de vous battre dans la liberté. Je ne veux pas jouer mon baveux parce que c'est tout le mal que je vous souhaite. C'est tout le mal que je vous souhaite de vous débarrasser de vos dictateurs aussi et de faire votre libération. Aujourd'hui, on vit des moments historiques en Tunisie. On appelle à la justice. On ne veut pas de vengeance. La vengeance, tout le chaos qui est actuellement en train d'être fait.
Oui, oui.
Le chaos le chaos en Tunisie est en ce moment même fait par les hordes, les gens qui sont les gens des les derniers fidèles, le dernier cercle de fidèles à Ben Ali, qui ont tout intérêt à mettre du grabuge, qui ont tout intérêt à montrer qu'une sorte de révolution démocratique ne fonctionnerait pas, parce que ça a l'air qu'on ne serait pas mûr pour ça. J'ai une petite nouvelle pour vous autres, on est plus que mûr pour ça. En ces moments historiques pour mon peuple, je ne peux pas ne pas avoir une pensée pour des milliers, des dizaines de milliers d'exilés partout dans le monde. C'est la situation de certains d'entre vous ici que je reconnais. Des gens qui ont été privés de leur passeport pendant de très longues années. Des gens qui ont subi des brimades. Les gens dont les proches ont subi des brimades en Tunisie parce que ces gens-là, pendant les années de plomb, ont osé dire non à Ben Ali. Des gens qui n'ont pas pu enterrer leurs parents en Tunisie parce qu'ils étaient interdits de rentrer dans leur pays. Aujourd'hui, le message, il faut rester très vigilant. Ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un début aujourd'hui. C'est le début de la lutte.
Un peuple uni, jamais ne sera vaincu. Un peuple uni, jamais ne sera vaincu.
Je passe la parole maintenant à Mohamed Ali qui va parler au nom du collectif de Québec pour l'aide sociale en Tunisie. C'est le collectif qui s'est créé il y a quelques semaines lors des événements tragiques qui ont eu lieu.
Merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe en Tunisie. La Tunisie qui est son peuple a créé un événement historique qui s'est jamais vu dans aucun pays au monde. Ce peuple-là aujourd'hui s'est levé pour dire non, on en a assez de vivre sous la dictature. C'est ça le message principal. Le problème, c'est que nous, comme Tunisiens, comme démocrates, comme gens libres, n'avons jamais eu l'occasion de nous exprimer librement en Tunisie. Les institutions, l'État, tous ces appareils ont été monopolisés pendant 55 ans par le régime, par le parti au pouvoir actuellement. Aujourd'hui, pour ne pas trop prolonger mon discours, ce que je veux, c'est qu'on soit solidaire de notre peuple et qu'on fasse attention, qu'on soit vigilant. Aujourd'hui, la démocratie n'a pas gagné encore. Il faut se le dire. Aujourd'hui, le dictateur est parti, mais la dictature est encore en place. La dictature, c'est un parti au pouvoir qui a ses ramifications, qui s'est instauré, qui est maintenant détenteur d'un réseau. On a vu ces derniers jours les signes de la contre-révolution, si on peut l'appeler de cette façon. Il y a des agitateurs, un groupe organisé, et ce qu'on a entendu comme information donne à l'effet que c'est un groupe qui fait partie de la garde présidentielle. Un certain Seriati a été arrêté aujourd'hui et c'est un général proche de Ben Ali et de sa gang. C'est lui qui a organisé toute cette mise en scène de chaotique et attaque aux établissements publics, des centres de commerciaux, des maisons sont attaquées. Donc on a essayé de créer le chaos pour justifier peut-être une vengeance ou une stratégie pour faire revenir la dictature en Tunisie. Peut-être pas avec la même face, mais continuer avec cette dictature. Je suis fier d'être Tunisien aujourd'hui. Je suis fier de le dire haut et fort que je suis opposant à ce régime. Je l'ai toujours été. Et puis aujourd'hui, je me sens encore plus heureux d'avoir accompli quelque chose pour mon pays.
Dictature finie!
Plusieurs groupes politiques étaient présents à cette manifestation, dont le collectif Anarchiste la Nuit, mais aussi Québec solidaire. Donc on va attendre Sébastien Bouchard, porte-parole régional de ce parti, qui fut le premier parti québécois à appuyer dès la fin décembre la révolution en Tunisie.
Mais je vous invite à réfléchir sur les causes profondes. Si on veut une nouvelle Tunisie, il faut réfléchir aux causes profondes des problèmes actuels, des causes économiques et des causes politiques. Et le Québec et le Canada est en lien avec ces problèmes. est en lien avec ses problèmes parce qu'économiquement, il y a du chômage et de la pauvreté. Et le chômage en Tunisie est en partie lié aux politiques du FMI, aux politiques de la Banque mondiale, aux politiques de coupure, de privatisation qui sont imposées par les financiers internationaux et appuyées par des gouvernements comme le gouvernement canadien. Les problèmes politiques, c'est-à-dire la dictature actuelle en Tunisie, comme au Maroc, comme en Algérie, comme en Égypte, comme en Jordanie, comme en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, dans tous ces pays, il y a des dictatures pro-occidentales, c'est-à-dire que le gouvernement des États-Unis, le gouvernement canadien, le gouvernement de l'Europe, donc le gouvernement canadien ici a appuyé la dictature et le gouvernement canadien doit prendre position. Aucun appui à aucune dictature, que ce soit dans les pays arabes ou partout dans le monde. Non, le Canada n'appuiera plus la dictature. Il faut faire pression sur notre gouvernement, sur les députés, sur l'ensemble et se mobiliser comme société civile pour que les pressions se fassent sur ces gouvernements et que la position du gouvernement canadien qui était par exemple sur l'Iran, il y a eu des mobilisations contre le régime en place. Le gouvernement canadien les a appuyés fortement. Et s'il veut être conséquent, il doit appuyer les mobilisations partout. La Tunisie est une première place. Espérons que l'ensemble de la région se soulèvera pour la démocratie. Enfin, soulignons que la situation n'est pas jouée. C'est une première étape. Le dictateur est parti. Et donc, il va falloir rester mobilisé parce que la situation va évoluer rapidement. Et on sait, on connaît à la fois les gens du régime, on connaît aussi la puissance, par exemple, de la France, des États-Unis, des autres puissances pour garder ces régimes en place. Il faut faire attention et soutenir le peuple tunisien en lutte. Merci. Soyez fiers d'être ici. On continue.
Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble. Plus fort, les amis, plus fort. Ce sera enregistré, ça, vu ce soir à Tunis et partout dans le monde. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble.
C'était un reportage de Voix de Fait. On se quitte sur une chanson de El General, icône de la contestation rap à Tunis. Ça tombe bien, c'est justement sur cette chanson-là qui s'est terminé le rassemblement de samedi dernier.
هاني اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الاحلام 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط للشارع وشوف العباد ولات وحوش شوف الحاكم بالمتراك تاك تاك ما على بالوش مادام ما فما حد باش يقول له كلمه لا حتى القانون اللي في الدستور نفخ وشرب ماه كل نهار نسمع قضيه ركبوها له بالسيف فرطان حاكم يعرف اللي هو عبد نظيف نشوف فلاح ليش تهرف انسان ما تحاجبين زعما ترضى هالبنتك عارف كلامي بك العين عارف مدام كبو ما ترضاش الشر لصغارك كالور هذا ميساج عبارة واحد من صغارك تحكي معاك من الصفرانس رانا عايشين كلك لا باش ترى الشعب عايشين الذل وثاقوا من كاس تعذير
رئيس البلاد شعبك مات برشا عباد من سبلا كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي باركو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصرقات رئيس البلاد شعبك مات برشا عباد من سبلا كلاد هاكا تشوف اش قاعد صاير في البلاد مآسي باركو وناس ما قادش وين تبات هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموا واللي داسوا بالصرقات
رئيس البلاد وطلي يحكي من غير خوف انا حكيت لكن عارف اللي نهايتي كالكفوف نشوف في برشا ظلم هذاك علاش اخترت كلام بورطا وصوني برشا عباد اللي نهايتي كان الاحلام لكن الى متى التونسي عايش في الاوهام وينها حر
Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne.
Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan,
Moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, lui rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne.
Rebonjour, vous êtes toujours sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de Fait, l'émission du collectif Anarchiste la Nuit. Et comme on l'annonçait en introduction, on va passer une entrevue avec Vicky Brazo, qui est directrice adjointe du regroupement des organismes communautaires de la région de Québec. Parce que, les groupes communautaires, actuellement, surtout dans le secteur de la santé et des services sociaux, c'est le branle-bas de combat.
Oh que oui!
Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, j'ai vu passer sur certains réseaux sociaux qu'on n'aimera pas en ondes, parce que j'ai vu passer donc des appels à la mobilisation et en fait quelque chose qui est très rare dans le milieu communautaire, un appel à refuser de signer un protocole d'entente avec un ministère. Protocole d'entente qui normalement c'est tu signes ça, puis après ça t'as le chèque. Donc, qu'est-ce qui vous amène à ce geste aussi radical, raide, disons, en tout cas, il est parlant.
Oui, c'est sûr que quand on entend « non à la convention », ça l'appelle. En fait, il faut expliquer qu'au ministère de la Santé et des Services sociaux, il existe un programme de soutien financier pour les organismes communautaires. Le programme en soi comprend déjà des outils de reddition de comptes et comprend déjà un cadre de financement et tout, mais effectivement, on n'a pas encore de protocole d'entente, contrairement à d'autres ministères aussi qui financent des organismes communautaires.
Donc là, vous avez un programme qui est le programme de soutien aux organismes communautaires qui existe depuis quand même plusieurs années.
Oui, ça fait... ça a été régionalisé en 94, mais ça date même de plus loin que ça, le programme.
Donc ça, c'est un programme qui s'est construit au fil des ans, qui a été négocié entre les organismes communautaires, leurs représentants, l'État, le ministère. Et puis là, on veut changer les règles du jeu.
Oui, faut rappeler que en 2008, suite aux recommandations là du vérificateur général qui avait regardé au niveau de ce financement-là et qui avait dit au ministère vous devriez entre autres voir à instaurer des mesures pour assurer une vérification et une évaluation plus rapprochée.
Donc, il y a le vérificateur général qui s'est mêlé du dossier. Ce monsieur-là, ou cette madame-là, je ne sais pas, dans le fond, c'est...
C'était un monsieur à l'époque.
Donc, le vérificateur, c'est quoi? Il tire ses dossiers au hasard ou il y a quelque chose qu'on ne sait pas sur le financement des organismes communautaires?
Non, faut pas oublier, le vérificateur général, il est là, il est indépendant de tout parti politique. Puis, il est vraiment là pour vérifier tout ce qui se passe en matière de gestion des fonds publics. Okay. Donc, ça peut se passer dans n'importe quel ministère. À ce moment, ces recommandations portées au niveau du ministère de Santé et Services sociaux en regard aussi des organismes communautaires, mais il a fait plein d'autres recommandations aussi sur d'autres sujets.
Il a regardé l'ensemble du ministère.
Oui, c'était l'ensemble de la gestion du réseau Santé et Services sociaux.
Donc, il y a le vérificateur général qui vient voir le ministère et qui lui dit, dans votre gestion des subventions aux organismes communautaires, il y a peut-être des bouts qui manquent. On aimerait ça que vous mettiez en place de nouveaux outils de reddition de comptes, des façons de plus vérifier où est-ce que l'argent s'en va et tout.
Oui,
on part de ça.
Oui.
Ça, c'est quelque chose qui vous va, en gros.
Oui, oui, on n'est pas contre le principe qu'effectivement, d'avoir, disons, un contrat d'engagement qui nous lie et qui dit, ben nous, les organismes communautaires, on est d'accord pour respecter les critères du programme de soutien financier, d'utiliser les fonds publics, hein, parce que c'est des fonds publics aux fins qui sont supposés de servir, puis d'avoir à remettre une reddition de compte pour justement que le ministère puisse vérifier est-ce qu'on a bien sûr dépensé les sommes là, correctement.
Mais c'est pas ça qu'on vous propose. On arrive avec un protocole qui est... C'est quoi? C'est, on, est 51
on arrive avec
articles?
Une convention. Une il y a convention? 50 articles.
C'est pas juste un truc de reddition de compte, là.
Non. Et il faut, faut dire aussi que c'est sûr que, bon, c'est en novembre 2008 que le vérificateur général a fait ces recommandations-là. Et suite à ça, le ministère avait quand même un délai pour émettre un plan d'action. Dire, bon, ben suite à ça, nous, on va faire telle action là, pour répondre à ce que le VG suggère. On s'entend, ou qu'est-ce qu'il a noté qui fonctionnait plus ou moins bien. Bon, ben là, finalement, en août dernier, il y a déjà un comité qui existe avec des représentants au provincial qui siègent là, avec des représentants du ministère de la Santé et Services sociaux. Puis ça fait depuis 2004 que ça existe, justement, pour travailler sur quel outil on peut utiliser pour rendre des comptes, quel outil on peut utiliser pour promouvoir l'action communautaire, etc. Donc, à ce comité-là, en août dernier, les représentants du ministère sont arrivés, ont remis un document entre les mains de nos représentants en disant « Voilà le projet de convention qu'on vous suggère. »
Puis non, ça, c'est en rupture avec ce qui se fait depuis plusieurs années. Non, on n'arrive pas comme ça en disant « Voici le projet. »
Du tout. Du tout. Il y a même une politique gouvernementale qui existe depuis 2001 et qui dit qu'ils vont mettre en place et qu'ils vont favoriser des processus de consultation toujours et qui va toujours respecter l'autonomie des groupes communautaires. Donc, il y a déjà une politique qui existe puis qui veut harmoniser tous les processus puis s'assurer qu'il y ait de bonnes relations entre les organismes communautaires, bien, le milieu communautaire en fait, et les différents ministères.
Donc là, en plus de vous arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, en plein été, avec un projet de convention, ça a été une douche d'eau froide, votre...
Bien, c'est certain
à
que...
À la lecture, là, c'est pas...
Oh oui, en partant, je veux dire, c'est sûr que là, c'est comme... C'est un document qui a été fait juste sur un côté. Dans le fond, c'est un peu comme je me présente, bonjour, je m'en viens réparer quelque chose chez vous. Puis là, il y a un contrat, hein, on s'entend sur à quelle heure, combien d'heures, ça coûte combien, etc. Moi, je présente ça, puis c'est de même, ça marche.
OK.
C'est là, c'est comme ça, puis je rentre demain matin. Je veux dire, ça peut pas, là. C'est quand même un contrat qu'on va signer.
Et qu'est-ce qui, dans ce contrat-là, n'a pas de bon sens? Il y a une attaque à l'autonomie, d'abord.
Oui, entre autres. Donc, c'est les principes là, de choisir nos orientations, de choisir comment qu'on va fonctionner, nos activités. Dans le contrat, ça permet beaucoup d'ingérence au niveau de comment les organismes vont fonctionner de la part du ministère, entre autres. Il y a aussi, au niveau du financement, qu'on avait déjà un acquis qui avait un financement continue. Tu sais, en fait, dans le programme de soutien financier, quand le ministère reconnaissait un organisme disant, bon, OK, les activités que vous faites sont en lien en santé et services sociaux, on vous reconnaît dans ce programme-là. Là, j'ai de perdre mon idée complètement.
Le financement continue.
Vive le direct. Oui.
Donc,
c'est ça. Une fois qu'on était reconnu, bien, tant qu'on respectait le programme et le pourquoi qu'on était admissible, bien, il y avait une récurrence. Donc, il y avait un renouvellement du financement à chaque année. Bien sûr, c'était conditionné qu'on remette un rapport d'activité, qu'est-ce qu'on a fait, qu'on remette des états financiers, etc. Mais je veux dire, s'il n'y arrivait pas rien ou qu'on manquait à une clause, c'était correct. En ce moment, avec le dépôt du projet de convention, c'est de 2011 à 2014. 2014, c'est le néant après.
Il n'y a pas de processus précis sur le renouvellement.
Donc, on revient à un financement aux 3 ans plutôt qu'un financement continu. Ça, fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après 3 ans.
Parce que c'est ça, pour certains secteurs du mouvement communautaire, de réussir à obtenir un financement triennal, c'est un gain. Pour vous autres, c'est un recul.
Oui, c'est ça. Ben, en fait, on a été chercher, il faut dire qu'on a été chercher des avis juridiques, des avis comptables, tous les enjeux. Je veux dire, on a eu des gens qui ont vérifié, qui ont lu aussi les articles. Et effectivement, là, c'était comme, écoutez, vous pouvez faire mettre une clause qui dit que, bon, mais s'il n'y a pas de signature de convention, le financement s'octroie, se renouvelle automatiquement ou après tant de jours d'avis. Parce qu'il arrive quoi en 2014 s'il y a un changement de parti, s'il y a un nouveau gouvernement en place ou si…
On recommence.
Ben oui, bien sûr.
À zéro. On fait une nouvelle convention, une nouvelle politique.
Et pendant ce temps-là, les organismes, on n'est pas occupés à offrir des activités et des services à nos membres.
J'ai lu la documentation un petit peu qui est disponible sur Internet là, oui. Pour le commun des mortels qui s'intéressera à la question. Moi, ce qui me fascinait, c'est que en gros, on vous traite, on semble vouloir vous traiter comme un service, en fait, comme une branche de l'État, comme un service de l'État, on dit, en fait, ils vous demandent d'autoriser des visites de fonctionnaires, à peu près n'importe qui, pour venir vérifier. Parce que traditionnellement, la reddition de compte, ben, comme tu le disais, c'est on envoie un rapport d'activité, répondre à des questions, dépendamment là, du bailleur de fonds, ça varie un peu. Mais là, c'est plus juste ça, là. On veut que vous soyez des livres ouverts pour les fonctionnaires qui vous financent.
Bien, de la façon que c'est nommé dans le document, effectivement, ce que ça dit, c'est que ils se donnent un pouvoir d'inspection parce qu'ils se permettent de venir visiter. On nomme pas le délai. On dit pas avec un délai raisonnable. Donc, il n'y a pas de préavis nécessairement. Ça permet de se pointer. Et ce pouvoir d'inspection-là n'existe pas. Il y a une loi en santé et services sociaux. Le ministère a un pouvoir d'inspection sur les établissements du réseau public.
Un CLSC, un hôpital.
Mais il n'a pas ce pouvoir-là sur les organismes communautaires. Et ce que ça fait pour nous, ça fait qu'à ce moment-là, s'il se donne ce pouvoir-là, nous, on ne peut pas refuser. Puis, écoutez, on s'entend, là, on n'est pas contre les principes ou les concepts qui sont énoncés dans le projet de convention. Où est-ce qu'on n'est pas d'accord? C'est quand on donne toute la latitude ou qu'on garde ça très vague et il n'y a pas rien de balise ou de repère ou de procédure qui dit, bon, ben ça va être de telle façon ça va se passer. Donc, la personne qui vient, là, finalement, c'est sur son jugement personnel, sur ses valeurs, sur comment elle va interpréter la loi.
Puis on s'entend qu'en santé et services sociaux, du côté des organismes communautaires, il y a quand même plusieurs pratiques novatrices. T'as pas toujours envie d'être soumis au bon jugement d'un fonctionnaire de classe moyenne qui débarque de banlieue.
Oh! Alors, des jugements, il y en a tout le temps des deux côtés.
Ouais. Non, mais... Effectivement.
Non, mais il faut s'entendre. Pensons aux organismes, ben, comme vous avez dit, qui sont novateurs, mais aussi qu'on a, disons, des gens que c'est plus marginalisés déjà dans notre société. Pensons aux organismes qui offrent des hébergements pour les hommes violents. Pensons à des organismes qui offrent des endroits pour des piqueries supervisées.
Réduction des méfaits, notamment.
Des méfaits, c'est ça. Est-ce que là, ça va être interprété comment? Et quand on fait des visites comme ça, il faut aussi comprendre que les membres, quand ils viennent souvent dans les organismes communautaires, ben c'est souvent une alternative au réseau public et c'est volontaire. Premièrement, c'est sur une base volontaire. Mm-hmm. Et souvent, il y a un anonymat aussi qui est demandé. Tu sais, on fait pas de tenue de dossier. La personne, elle vient. Il y a un lien de confiance qui s'établit. Mais là, si on sait qu'il y a quelqu'un qui peut débarquer en tout temps, il va arriver quoi avec ce lien de confiance-là, avec les membres? C'est ça. Là. Dans le fond, ce qu'on demande, c'est on peut-tu faire ça autrement, puis aussi dans le respect de qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. C'est ça, en gros.
Puis sinon, l'autre chose aussi qui était fascinante, outre les visites impromptues, gens qui viennent prendre un café sans s'annoncer, il y a toute la demande de fournir des documents, mais sans spécifier, en fait, quel document qu'on va demander. Ça, c'est un peu spécial.
Oui, puis là, on s'entend que ça, c'est on contrevient à la loi sur les dossiers des entreprises, parce que dans le fond, les organismes communautaires, on est à but non lucratif, mais on relève de la loi sur les entreprises, là, organismes à but non lucratif. Puis, c'est sûr que là-dessus, au côté confidentialité, ben il y a des documents, on pense aux coordonnées de nos membres, on pense... Je voudrais les procès-verbaux, que ça, c'est les conseils d'administration qui ont le droit de les regarder, les membres du conseil d'administration, mais c'est pas n'importe qui se présente dans l'organisme. Tandis que là, vu qu'ils énumèrent pas, effectivement, le ministère se donne le droit d'arriver puis de dire, ben moi, je veux voir tel document. Alors, qu'est-ce qui va arriver pour l'organisme si une personne, un participant, une participante revient puis dit, hey, ça a été divulgué, je poursuis l'organisme. Qui est responsable? C'est pas le ministère, ça va être le conseil d'administration.
Ouais. Et là, le plan de match du ministère, c'est quoi? Normalement, il vous a soumis ça au mois d'août. Il s'attend à...
En disant, bon, ben vous avez jusqu'à la mi-novembre pour consulter vos membres. Alors, ici, quand on parle de membres, on parle de 3000 organismes dans la province de Québec. Donc, on avait 2 mois pour consulter nos membres, ce qui veut dire prendre le document de travail, le redescendre dans chacun de nos organismes, expliquer c'est quoi et expliquer au conseil d'administration, est-ce que, parce que c'est eux qui signent, là. C'est eux qui s'engagent.
On rappelle qu'on parle d'un document d'une vingtaine de pages, 50 articles.
Là. Oui, qu'on a demandé des avis juridiques et comptables à des gens qui sont spécialisés, qui font ça à journée longue, parce que nous-mêmes, quand même, je veux dire, les gens qui sont salariés dans les organismes aussi, là, on est là à semaine longue, on baigne dedans, là, mais même pour nous, c'était du chinois. Là.
OK. Là, ils voulaient donc consultation en novembre, puis normalement, ce serait pour une signature au printemps.
Oui, parce que le document, il y a déjà des dates dessus, donc c'est un document qui serait valide de 2011, du 1er avril 2011 au 31 mars 2014.
Est-ce qu'ils ont prévu une procédure d'amendement? Genre, vous consultez vos membres, puis vos membres ne sont pas d'accord.
Jusqu'à maintenant, la position du ministère semble maintenir le cap d'appliquer...
C'est à prendre ou à laisser.
D'appliquer le document pour le 31 mars. Et écoutez, il n'y a toujours pas eu de discussion, il n'y a toujours pas eu place à « OK, c'est beau, on se rend compte. Les représentants ont quand même demandé d'y écouter, là, laissez-nous le temps de consulter, mais il n'y a pas eu de suite. Tout ce qu'on sait, comme je vous dis, c'est que le ministère est toujours prêt à appliquer pour le 30, ben, pour le 1er avril, en fait.
Vous, bon, évidemment, vous refusez ça. Là, on parlait là, du le projet, en fait, la campagne non à la convention, convention PSOC pour le programme de soutien aux organismes communautaires. Donc, cette campagne-là est en cours actuellement. On a le plan de match du ministère, ils veulent l'appliquer en avril. Vous autres, qu'est-ce que vous comptez faire face à ça?
Bien, en fait, nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir un délai supplémentaire pour réellement avoir une réelle consultation. Puis avoir une réelle négociation. Parce qu'en ce moment, c'est pas un document, je veux dire, c'est un contrat, il faut toujours bien que les ententes qui sont établies soient satisfaisantes pour les deux parties. Mais là, on n'a même pas rien eu à dire encore. Puis c'est sûr qu'avec ce qu'on a là, le document, présentement, même ce document-là, on le rejette. On ne rejette pas le concept de signer un contrat, mais on rejette le document actuel.
Le contrat qui est proposé.
C'est ça. Ce qu'on voudrait, c'est repartir sur des nouvelles bases, parce qu'on s'entend que quand même, hein, c'est aussi des fonds publics. Hein? On va utiliser des représentants du ministère, des représentants du communautaire pour s'asseoir, puis travailler sur un nouveau document. Est-ce qu'on peut faire ça simple? Mais ça prend du temps. Pour négocier le principe
ça
de base...
Ça peut pas être prêt pour le 1er avril.
Non. c'est pour ça que là, on dit non à la convention, parce que c'est de la façon que ça s'est fait. Puis avec ce que ça l'implique, c'est une perte d'acquis pour les organismes communautaires.
Puis là, actuellement, le mouvement est en tournée de consultation, en fait, en tournée d'information, sensibilisation sur le refus, finalement.
Oui, bien, c'est à la grandeur de la province, là. Les différents regroupements des régions, là, amènent ça, font des rencontres avec les organismes pour leur expliquer, parler des enjeux aussi, qu'est-ce que ça implique de signer ou de pas signer.
Puis ce que vous suggérez à vos membres, finalement, c'est de refuser de le signer, d'adopter une résolution.
Bien, jusqu'à maintenant, quand on lit, Mm-hmm. Avec les avis qu'on a eus, quand on le regarde, on a plus de pertes à signer ce document-là qu'à ne pas le signer. Okay. On a plus de risques. Donc, mais c'est sûr que chaque organisme est autonome. Mais en bout de ligne, c'est quand même ça. Puis comme on dit, le message qu'on lance au ministère, c'est pas qu'on veut pas. On le sait qu'il y a quand même une recommandation qui émane du vérificateur général. On le sait qu'il doit amener quelque chose, faire une proposition, mais est-ce qu'on peut trouver une solution qui convienne aux deux parties? Il doit avoir un moyen. On l'a déjà fait auparavant.
Donc, ça doit pouvoir se faire encore. Et sinon, pour la suite des choses, vous continuez vos assemblées d'informations, puis
oui,
vous dirigez vers une mobilisation.
Sûrement. Alors, soyons stratégiques, nous en parlerons
rendu là.
Mais les deux premières semaines de février, pour la région de Québec, là, le ROC, le recoupement des organismes communautaires, là, on fait des rencontres, surtout en soirée, justement, pour que les membres de conseil d'administration puissent participer, et les membres des organismes comme tels. Puis, on invite tous les organismes qui sont financés par ce programme-là de venir aux rencontres pour justement avoir l'information, échanger toutes les questions qui peuvent se poser, essayer d'y répondre du mieux possible.
Si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui veulent en savoir plus, est-ce qu'ils peuvent vous contacter, aller sur Internet?
Oui, appelez-nous, ça fait toujours plaisir.
Quel numéro de téléphone?
Ouh, on peut le dire.
Ben, on peut le dire.
Alors oui, ce n'est pas confidentiel. C'est donc dans le 418, bien sûr, 524-7111, où vous pouvez nous envoyer un courriel à info@commercialroc03.com.
Ben, merci beaucoup.
Mais merci à vous.
Puis, ben, on va sûrement avoir l'occasion d'en reparler. Si le ministère bouge pas, on verra quand mobilisation il y aura.
C'est bon.
Donc, nous, on s'en va en musique.
Avant, on va écouter un petit quelque chose de spécial.
OK.
Sequoia est en crise. Ses finances sont à sec. Les employés ont été mis à pied. À tout moment, Sequoia peut cesser d'émettre à tout jamais. Par contre, les membres se mobilisent. Déjà, des bénévoles prennent la relève et assurent la vigile. Il y a une lueur d'espoir à l'horizon.
On part à la mobilisation. Achète une carte de membre sur ckiafm.org. Passe nous voir sur les heures de bureau au 604 d'Abraham ou appelle-nous au 529-9026.
Ces barrières, ces putains de murs de pierre, ces barreaux en fer, cette ligne imaginaire qui divise la terre. Mais à quoi bon faire de longs commentaires quand t'es dans mon monde, c'est celui que je préfère. Y'a plus de barreaux en fer, de murs de pierre, y'a toi et moi dans tes bras qui me serrent. Pas de fumée sans flamme. Oui, chère madame, c'est du pavé de Paname. Je regarde le trompe-pas, je regarde les dégâts. Paye pour tout ça, avec ça ne se reproduise pas. Mais qui me contrôle, à part les keufs qui contrôlent? C'est pas moi, c'est toi, et c'est qu'est-ce qui me frôle? Mais où en étais-je, avant de me faire taire? Quand le poids du passé, mais une vie à s'effacer. Des geôles d'Afrique, aux tôles nordiques, les mêmes murs de briques quand la justice s'applique. Sur les bandes, les sniffeurs de colle, non c'est pas la mienne, c'est la tienne qui racole. C'est bien loin de tout ça et d'un bar de Pattaya. Tu m'as invité et j'ai pris un billet.
Et de retour sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec avec Jenny qui va nous parler de manifestations à Tel Aviv.
OK. Ouais, c'est environ 10 000 personnes qui ont manifesté samedi dernier à Tel Aviv en Israël pour dénoncer une campagne qui est menée par l'extrême droite contre des associations de gauche. C'est les manifestants majorité juifs, mais également des Arabes israéliens, brandissant le drapeau israélien et palestinien, ainsi que des banderoles dénonçant la droite et appelant au respect de la démocratie. Cette démonstration a été organisée par plusieurs dizaines d'organisations de parti de gauche. Autorisée par la police, elle était une réponse à la décision du Parlement israélien de créer une commission d'enquête sur le financement des organisations de la défense des droits de la personne. Cette commission-là doit notamment scruter une association surveillant le comportement des soldats au poste de contrôle. Une autre d'anciens militants témoignait de la réalité du conflit dans les territoires palestiniens occupés et le comité contre la torture. Puis le chef de la diplomatie, Avigdor Lieberman, dans le parti Israël, BTNU, joue un rôle important dans cette campagne, accuse certaines associations d'être des complices terroristes dans le seul but d'affaiblir l'armée israélienne. Mais c'est la création de ces commissions d'enquête a été qualifiée d'antidémocratique tant par les représentants de la gauche que de la droite. C'est le président du Parlement, Reuven Rivlin, qui est membre du parti Likoud du premier ministre Benjamin Netanyahu et des trois ministres du parti qui l'ont critiqué. Donc, ça va être à suivre.
Puis sinon, on avait aussi toute la question de la Grèce.
Oui, c'est la Grèce qui s'apprête à ériger une clôture pour endiguer l'afflux d'immigrés qui entrent en Europe via la Turquie. Mais hein, ça ressemble un peu au mur qui est construit entre les États-Unis et le Mexique, dans le fond. Hein.
Oui.
C'est la même affaire. C'est près de 300 personnes qui tentent de passer chaque jour la frontière à cet endroit précis. Là où le fleuve Evros fait un crochet à le territoire turc et ne joue plus son rôle de frontière naturelle entre les deux pays. La présence des agents de la police européenne aux frontières, Frontex a été concluante dans les îles et a commencé à porter ses fruits dans le nord après 2 mois de présence. Selon le gouvernement grec, la présence d'un mur de barbelés équipé de caméras thermiques et de capteurs de présence sera encore plus dissuasive pour les passeurs. Puis là, dans le fond, le ministre de la Protection du citoyen, qui a géré l'immigration, Christophe Papoutis, il répond à ceux qui critiquent son projet, ben il dit que c'est dans le fond que c'est hypocrite parce que lui dit dans le fond c'est le problème de la Turquie puis que dans le fond ils s'en foutent carrément du monde des immigrés.
Donc c'était ça?
Ouais.
C'est t'as toujours des nouvelles super joyeuses toi. Hein,
là, quand même. Que je te dis, c'est la réalité, j'ai vu ça.
La réalité.
C'est la vie.
On passe à la musique?
Oui, une brève tune pour que tu puisses faire tes appels.
serio. La joventut abandona de la ignorància. El dia a dia en un clima de violència. La societat renega de nosaltres. Ens critica i ens mesquina. Sobrevivim com millor ens deixa. Ens arrossega un sistema que s'enfonsa. I ven a tot el meu voltant, ningú es queixa.
De moment segueixo callant.
Hey, bonjour, vous êtes toujours à CKIE 88.3 à Québec et vous écoutez toujours l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Je vous avais promis en introduction une entrevue téléphonique avec Samuel Lamar, mais je ne serai pas capable de la faire parce que soit je comprends rien à la technologie du téléphone, soit ça marche pas. Enfin, bon,
mais
toujours
t'es pas tombé sur une boîte vocale.
Ouais, mais c'était pas le bon numéro, c'était pas la bonne affaire. Moi, je pense qu'il y a un fuck ces interurbains.
Oh.
En tout cas, toujours est-il que aujourd'hui, un peu partout au Québec, il y avait des étudiants et des étudiantes qui se mobilisaient pour dénoncer les recteurs des universités qui ont pris position finalement pour la hausse des frais. Puis ben, c'est ça, il y en a eu à l'Université Laval, il y en a eu à l'UQAM, il y en a eu à l'UQAM, il y en a eu à l'UDM, il y en a eu un peu partout. Là, j'étais supposé de parler avec un camarade du collectif anarchiste Emma Goldman de l'UCL Saguenay pour l'UQAC, donc une trentaine d'étudiants universitaires qui se sont rassemblés là. C'est à l'appel du Comité autonome pour l'accessibilité aux études, le CAPÉ, en tout cas, afin de dénoncer les déclarations du recteur Michel Bailey. Alors, il faut savoir que l'UQAC a un recteur un peu particulier, là, c'est un ancien militaire qui passe son temps à se mettre les pieds dans la bouche. Et lui, il prétend qu'une hausse des frais de scolarité de 1 500 $ en 3 ans serait nécessaire pour remédier au sous-financement des universités. Puis là, fait nouveau, le mouvement étudiant commence à questionner cette notion de sous-financement. Parce qu'il y a une étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique qui affirme, tiens-toi bien, que les revenus des universités ont connu une augmentation de 71% entre 1997 et 2005 et que pour la même période, le nombre d'étudiants n'a augmenté, lui, que de 18%. Alors, on se demande, du côté des étudiants, est-ce qu'on peut parler de sous-financement?
Mais où est l'argent?
Où est l'argent? Ben, c'est
l'iris
ça.
Dans la stratosphère administrative.
Eh ben, l'iris a aussi des chiffres là-dessus. Il indique que la masse salariale du personnel de direction et de gérance a augmenté de 83,2% entre 1997 et 2004.
Ah ouais, mais ils étaient sous-payés, les pauvres petits.
Ben ouais, puis en 2000 puis 2005, les salaires de la direction ont connu une hausse de 35%.
Ben sinon, ils vont s'en aller dans le privé.
Ben oui, c'est ça. Fait que, là, les étudiants sont pas contents. Ils sont pas contents d'autant plus que le recteur de l'UQAC a refusé l'invitation du Conseil central du MAJ UQAC, ça c'est l'espèce d'équivalent d'ACADOL, le mouvement des associations générales d'étudiantes de l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, il aurait pu aller rencontrer les étudiants pour discuter de ses positions, mais il a refusé l'invitation. Et faut savoir aussi que les positions du recteur n'ont toujours pas fait l'objet d'une discussion au conseil d'administration de l'université. Elles n'ont toujours pas été adoptées. Et évidemment, les étudiants espèrent qu'elles ne le seront pas parce que la hausse des frais de scolarité, ben, ça sert pas les intérêts de la communauté universitaire. Donc, si je l'avais eu en entrevue, Samuel Lamar aurait pu me dire que les universités québécoises souffrent davantage d'un problème de malfinancement que de sous-financement. En effet, le financement est alloué de manière inégale en fonction de la stricte rentabilité des programmes de recherche et de partenariat avec les entreprises. Alors, les universités ont recours à des administrateurs externes qui sont étroitement liés aux grandes entreprises.
Oui, qui font des gens d'îlots voyageurs, comme à Montréal.
Ouais, c'est ça. Puis qui... des pavillons d'Omtar de la foresterie.
C'est magnifique.
C'est ça.
On aime ça, le privé.
Donc,
ici.
Par conséquent, la mission universitaire se tourne désormais vers la commercialisation de la recherche. Et en fait, si on regarde ça là, bien objectivement, c'est des fonds publics qui servent à couvrir les coûts des entreprises privées en recherche et en développement. Mais les profits, qui eux sont reliés à la commercialisation de ces innovations-là, demeurent évidemment du domaine du privé.
Non.
Et on dénonce là une mutation importante de la mission première des universités qui devait plutôt être la transmission et l'acquisition de connaissances et le développement de l'esprit critique.
Ça paye pas.
Ça, c'est pas supposé de payer, puis c'est pas, l'université, là, c'était pas juste de la recherche, c'était aussi de l'éducation, de l'enseignement. Et donc, le système d'éducation, c'est un bien public, et puis les mieux placés pour y prendre des décisions sont ceux qui y travaillent, y étudient, y vivent. Donc, l'objectif, c'est d'éwar les administrateurs du privé et arrêter de nous écrire avec les hausses de frais.
Allez donc faire des voyageurs du sol.
Ben oui, ben là, il y a un nouveau mode de gestion là, de l'université qui est calqué sur les entreprises privées. Les hauts dirigeants ont des primes faramineuses, puis le personnel doit être coupé de coupures importantes. Donc, on le disait, là, 83% de hausse de la masse salariale du personnel de direction et de gérance entre 87 et 2004. Combien tu paries que c'était pas la même chose au niveau des chargés de cours puis des profs?
Ben, je veux pas gager, je vais perdre.
Et puis, ben voilà. Donc, les étudiants revendiquent... en fait, il demande à ce que le rectorat de l'université applique des principes de transparence, d'imputabilité et de reddition de comptes envers la communauté universitaire qu'il représente. Puis que c'est ça. Finalement, une saine administration respectueuse de la mission première de ce lieu d'enseignement serait un premier pas pour un financement adéquat des universités. Pis sinon, on souligne que, comme à peu près tous les mouvements sociaux, ils ont des propositions pour aller chercher de l'argent pour financer. Puis cet argent-là, ils proposent pas d'aller chercher dans la poche des étudiants.
Non. Maudit, on va finir
même
ça.
Même si,
ça.
Paraît-il que, d'après les statistiques, un détenteur d'un diplôme universitaire va faire, sur le long de sa vie, à peu près 1 million de plus de revenus que la personne détentrice
ouais,
de
mais DES. Si c'est en or, il va faire comme Plamondon, il va aller en Irlande du Nord.
Ceci dit.
Fait qu'on n'aurait pas une esthéticienne. Nah, c'est une joke.
Ceci dit, c'est ce qui met fin à cette édition de Voix de fait, l'émission du collectif Anarchiste la nuit. Vous êtes en compagnie de Nicolas,
Janie
et Farouko.
Et on avait Vicky Brazo en entrevue.
Vida finimbra nostra consciencia.